Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Pascal Jacob.
Allô.
Et de Angélique Charot.
Ah, bonjour.
Nous sommes à Montréal dans les studios de Radio Centre-Ville et notre thème aujourd'hui sera l'expérience volontaire du bonheur. Il y a différents âges dans la vie d'un homme et d'une femme et il est relativement plus facile d'être heureux lorsqu'on est jeune. À moins d'avoir eu des accidents ou vraiment des bad luck, mais pour quelqu'un qui a une vie normale, c'est très très facile, t'as l'insouciance de la jeunesse, et à partir de 35 ans, chez la majorité des gens, il y a un moment où là, ça devient un peu plus difficile, les maladies, les cheveux rouges, les cheveux blancs, des petites choses qui ne paraissaient pas jusqu'à maintenant commencent à apparaître, donc c'est là que on commence à dire que ça prend une volonté pour être heureux. Et puis, plus on avance dans l'âge, plus on voit la différence entre ceux qui se laissaient porter et ceux qui décident d'être heureux et construisent leur bonheur. Alors, on va tenter de parler du sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce thème, Pascal ou Angélique?
Personnellement, moi, ça évoque de juste être soi-même. T'sais. Si t'es heureux, tu continues, peu importe l'âge que t'as. C'est sûr qu'arriver à l'adolescence, on est tout le temps à la recherche de qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, qui on veut être plus tard. Donc, c'est normal qu'il y ait un questionnement. Mais arrivé à l'âge adulte, que tu as encore des questionnements aussi profonds, il faut que tu aies déjà trouvé quelque chose qui te fait... Pas qui te décrit, mais qui fait en sorte que tu as le goût d'être heureux, tu as envie d'être heureux. T'sais. Parce qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui a ce don. Tu te lèves le matin et tu es super heureux. Il faut que quelque chose qui te motive. Puis, je pense qu'arriver à 25 ans et plus, souvent, là, les gens, ils savent déjà, là, souvent. Là.
Il y a déjà des piliers, hein, déjà bien définis au niveau de chacun des traits de caractère. C'est vrai qu'il y a au moins un qui, comme dit Pascal, ou au moins ça trace un chemin vers soit un but, soit des envies. On a commencé à dessiner une carte.
Parce que si tu n'as aucune idée, ça va être difficile, je veux dire, de continuer. C'est pas pourquoi tu te lèves le matin, t'as pas... Ça doit être difficile d'avoir une vie comme ça où est-ce que t'as pas de... Comment le dire en français? Un purpose? T'as rien, là. Je veux dire, tu fais juste te lever, mais... Et tu vis. C'est comme... Il faut pas que ta vie devienne une simple habitude. Sinon, c'est comme se brosser les dents, boire de l'eau. C'est quelque chose que tu fais naturellement. Il faut quelque chose qui te drive plus que ça. Donc, le bonheur, pour être heureux, ça vient de soi, tu sais.
Moi, je vois trois temps dans le bonheur. Là. Si je prends encore la vie humaine, il y aurait au début de la vie qui est spontané. C'est spontané. On se pose pas la question vraiment avant 35 ans, avant 30 ans, chez la majorité des gens. Il y a une facilité. Le corps va suivre. Hein. On peut aller passer une nuit blanche ou on peut aller prendre de l'alcool. Le lendemain, on va se réveiller. Après 35, 40, là, il y a plutôt une étape où on est assujetti à la volonté de construire le bonheur. C'est-à-dire qu'il faut une volonté de mettre les éléments dans notre vie pour être heureux. Et puis, vers la fin, si on a bien construit, je pense que c'est là qu'on commence à en jouir. Si on a mis dans sa vie des éléments qui nous rendent heureux et qui favorisent notre bonheur, là, à la fin, c'est devenu des habitudes. Et là, je pense qu'on peut en jouir. Donc, moi, je dirais que je suis rendu dans le milieu de ma vie. J'ai 39 ans, donc je suis rendu au moment où je construis, justement. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été facile. Je dis que c'est encore facile, mais je vois qu'il y a des résistances. Le corps n'est plus comme avant. C'est plus la même chose.
Ouais. On change d'énergie. Quand on vieillit, on change d'énergie. Effectivement, on a envie d'avoir des choses différentes, même s'il y a certaines choses qui restent quand même fixes parce qu'on les aime. On les module quand même, justement pour s'adapter à ce vieillissement, si on peut dire ça comme ça. Et puis, on parlait surtout à travers les expériences. Donc, à travers les expériences, on apprend. Donc, on apprend comment s'autogérer, on apprend nos forces, nos limites. Et je pense que c'est ça qui fait un peu la différence. Et puis, Ça nous assagit.
C'est vrai. Plus tu vieillis, plus tu te calmes, plus tu te connais aussi.
C'est surtout
C'est
ça, oui.
ça.
Tu te connais.
Plus tu vieillis, plus tu sais qui que t'es, pas quoi, mais qui tu veux être. Il y en a plein qui me disaient, tu leur demandes qui que t'es. Oh, je suis médecin, mais non, mais c'est pas toi. C'est plus tu vieillis, plus tu sais qui t'es. Tu sais, t'as déjà
Je
une
sais pas si
idée.
je pourrais généraliser. Peut-être que toi, oui, dans ton cas, mais j'ai rencontré beaucoup de gens. Moi, j'ai fait des groupes de discussion, puis c'est surprenant de rencontrer des gens à 40, 50 ans qui n'ont vraiment pas trouvé, qui savent pas qui ils sont. C'est un peu
Problème d'identité, oui, c'est
toi,
vrai.
tu dois travailler beaucoup avec des gens comme ça, Angélique.
Oui, aussi, mais c'est surtout que la remise en question au jour d'aujourd'hui, elle se fait à tous les niveaux et à tout âge. Je dirais qu'à la limite, ça va avec l'ère du temps aussi. On est tous dans le même panier quelque part parce que les remises en question, qu'elles soient négatives ou positives, qu'on se sente dans le brouillard, qu'on soit éclairci, dépendamment de notre caractère, ça reste que la remise en question se fait tout le temps, à tous les âges, sans blâmer. C'est la société un peu aussi qui fait ça. Ça va, tout va vite et il y a des gens qui sont pas, qui n'adhèrent pas spécialement à ce rythme, qui ça les bouscule plus que d'autres, tout simplement.
C'est vrai, ça. Il y a des. Si tu vas avec le rythme de la vie, en fait, compte, c'est vrai. Si tu te lèves le matin, tu vas travailler. Puis même si tu es travailleur autonome, il faut que tu te lèves quand même. Faut que tu te lèves quand même. Fait que, tu sais, c'est vrai, tu vas avec le rythme, mais en même temps, ça va aussi avec le système. Le système demande que bon, tout le monde paye des taxes, tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela. Fait que tu dois suivre le rythme du. Si t'es pas prêt à payer des taxes, tu vas avoir des grands problèmes.
Bah,
Là,
tu dois payer tes factures et tes
Et c'est
taxes.
ça. Tu n'auras pas le choix. C'est normal qu'arrivé à un certain âge, tu prends tout ça ensemble et tu te dis, regarde, je suis rendu à cet âge-là, je dois faire ça. Je trouve ça tellement facile de blâmer le système ou l'État, c'est trop facile de faire
Ouais.
ça. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Oh, mais Pascal, on est dans un système qui nous corrompt. Mais pourquoi ça t'a atteint autant?
Quelle est la décision que tu prends face à ça,
C'est ça,
effectivement?
c'est tout. T'as rien qu'à vivre avec, c'est tout. C'est comme les gens me demandent souvent, moi, comment ça que tu es aussi direct? Pose pas de questions, accepte-le, c'est tout.
Pascal, elle n'a pas de temps à
C'est
perdre,
ça, c'est
comprends?
comme trop compliqué. Sinon, je veux dire, au moment où tu te poses plein de questions, il y a des réponses que tu vas peut-être pas vouloir entendre.
Ou qui n'ont pas lieu d'être tout de suite
C'est
maintenant.
ça.
Elles doivent faire leur chemin et arriver peut-être à un temps plus approprié.
Exactement, tu sais. Et surtout, il y en a qui sont pas prêts à ça. T'es pas prêt à entendre toutes les vérités. T'es pas prêt encore à te connaître, à savoir, mon Dieu, je suis comme ça, tu sais. Et souvent, les gens qui te connaissent le mieux, c'est ceux que tu t'attendais pas. Il y en a qui t'ont vu deux fois, puis ils ont déjà saisi, quitté, tout, tu sais. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts à ça. Il faut leur laisser le temps. Puis en même temps, c'est une bonne chose de leur laisser le temps d'être qui ils sont. Parce que je trouve ça vraiment agaçant de bousculer quelqu'un.
Oui, chacun a un rythme. Oui,
C'est ça?
tout à fait. Ce que je dis souvent, on a tous une mélodie et puis on la joue à chaque matin un peu comme on veut. Puis
Mais il y en a qui sont un peu en retard sur leur mélodie. Moi, je peux dire que quand je parle à quelqu'un qui a 50 ans puis qui me dit je sais pas pourquoi je suis ici, je sais pas c'est quoi ma passion, ça me fait peur. T'sais, un jeune de 20 ans, je vous dirais que c'est correct, là, même 25, je pourrais dire. Là. Mais rendu à 50, ceux qui n'ont pas trouvé leur voie, et puis c'est là que je crois que ces gens n'ont pas construit. Par construire, moi, je veux dire de mettre dans sa vie, par exemple, des gens qui nous sont bénéfiques. Il y en a qui vont faire le contraire. Ils vont mettre des fausses personnes qui vont le planter un couteau dans le dos. Et puis, c'est sûr que ça mène au désastre. Donc, c'est de tout préparer, d'être attentif à tous les détails. T'sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui ne veut pas me faire chier.
Ah, c'est vrai,
J'ai jamais
d'accord avec ça.
perdu mes clés. J'ai jamais perdu mon portefeuille. T'sais, je connais des gens qui perdaient leur portefeuille 2 fois par année. Il faut que tu refasses toutes tes cartes. Mais ça, ce n'est pas des gens qui construisent nécessairement
Ça
leur
peut être
banque.
des aléas légères de la vie. Perdre des clés, un portefeuille, c'est pas encore très très important. Et aussi, quand on a 50 ans et plus, on peut aussi considérer que c'est une autre époque, c'est une autre génération tout simplement. Et puis qu'il y a peut-être toutes ces petites choses, petites variantes qui fait que il doit penser différemment de toi, qui a même tout simplement une décennie de moins.
Oui, mais je veux dire, s'ils veulent perdre du temps à toujours refaire leur carte, j'en connais des gens comme ça. Des fois, ils ont perdu des sommes incroyables, Mais pour moi, c'est pas des gens qui sont volontairement conscients. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai 39 ans, j'ai jamais perdu. Parce que je veux pas perdre une seconde. J'ai l'éternité, oui, mais en même temps, j'ai des choses importantes à faire. J'ai des projets, des livres à écrire. Donc, je veux pas perdre une heure juste à essayer d'appeler la banque et tout. T'sais. C'est pour ça que moi, puis là, je parle d'un portefeuille, mais c'est tous les détails, c'est pas juste ça. Là. Ça peut être des amis, ça peut être des investissements, des choses que tu as mis dans ta vie. L'appartement dans lequel tu vis, est-ce que c'est quelque chose qui te bonifie ou c'est quelque chose qui te réduit?
Moi, je vais me jouer un petit peu l'avocat du diable, mais tu sais, par un portefeuille ou les amis ou ce que tu peux dire, je peux être d'accord avec toi. Simplement.
Tu peux finir ton idée.
Oh, excuse-moi.
Vas-y, vas-y. Elle ne comprend pas encore les signes. Quelques secondes
ouais, on peut parler, tu sais, moi je te dirais à la limite, je pourrais mettre le point sur le contrôle. C'est le fait de jamais vouloir perdre quelque chose, tu peux toujours être en free control, comme on dit. Ça n'a pas non plus tout à fait un maximum de bénéfices. Et à un moment donné, il faut aussi savoir lâcher prise. Et puis des fois, la perte arrive justement pour pouvoir faire un petit gling-gling en disant, bon, là c'est peut-être le temps justement de refaire une bonne remise à niveau.
Eh bien... Peut-être que tu as raison, peut-être que pas. On va en parler après la pause. Alors, on va te laisser avec une pause, d'ailleurs, qui est la chronique d'Angélique, qui s'appelle « Le bonheur dans toutes les directions ». Et on revient après la pause avec ce thème, l'expérience volontaire du bonheur.
Bonjour, ma chronique jeu aujourd'hui est pour Nydia et sans doute bien des parents. Son message, je veux que mes garçons se sentent rassurés quand je ne suis pas là. Nydia souhaite créer avec ses fils de la nouveauté car la vie est faite de bien des changements. Alors ceci ouvre le bal du jeu qui se nomme Pas à pas. Il se joue à plusieurs et les fous rires sont obligatoires. Petite préparation, un jeu de 54 cartes et 2 cartes joker, un bandeau ou un foulard, une petite balle en mousse, un sablier et une feuille de papier pour noter le nombre de points par personne, car le jeu Pas à pas est un joyeux défi pour chaque participant. Voici les règles. Le joueur actif place le bandeau sur ses yeux pour avancer dans le noir. Il sera appelé maître du bandeau. Pendant ce temps, celui qui donne le chemin à suivre sera appelé le guide des pas et lancera la balle dans la pièce. Une fois le maître du bandeau prêt, le guide des pas retourne une carte et annonce le nombre de pas égal au nombre indiqué sur la carte. Exemple, si c'est un 5, alors le guide dit « Maître du bandeau avance 5 pas ». En avant, en arrière, sur le côté, bien sûr, les demi-tours sont autorisés. C'est au choix du guide des pas qui retourne autant de cartes nécessaires jusqu'à ce que le joueur arrive au pied de la balle vainqueur. Le maître du bandeau a le droit et lui seul de décider de faire de grands ou petits pas pour atteindre plus rapidement son objectif, gagner. Dans le noir, votre instinct est un atout, faites-vous confiance. Bien évidemment, dans tous les défis amusants, il y a un temps. Le sablier sera retourné 3 fois, donc 3 minutes pour réaliser votre but. Touchez la balle vainqueur. Si l'objectif est atteint avant les 3 minutes, les deux joueurs ont le droit à un bonus. Ils gagnent chacun moins 2 points. Les jokers, ils servent de cadeau. Qui aura un joker durant sa partie les yeux bandés annulera tous ses points et se placera en tête. Et oui, c'est le joueur qui totalise le moins de points qui remporte la partie. Voici la valeur des cartes. Si la carte est un 8 par exemple, alors comptez 8 points. Si c'est une figure... Le valet compte 4 points, le cavalier 3 points, la dame 2 points et le roi 1 point. Ainsi, à chaque partie, vous faites le total de toutes les cartes retournées. Alors, maître du bandeau et guide des pas, soyez rusés. L'activité pas à pas se joue en autant de parties que vous le souhaitez. Oui, vous pouvez rajouter des règles et des fous rires supplémentaires et allonger la mission du maître du bonheur. Je vous invite à me les faire partager sur mon blog www.proposurlebonheur.com. Au plaisir de vous lire, bon jeu à tous, à bientôt, bye bye.
De retour Bonjour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est l'expérience volontaire du bonheur. Donc, juste avant la pause, Angélique parlait là, que c'était bon parfois de perdre quelque chose ou ça pouvait nous aider à cheminer. Elle voulait engager quelque chose à propos du contrôle. Mais moi, parce que je fais la différence entre la maîtrise et le contrôle.
Ah oui,
contrôle quelque chose, ça va t'éclater en pleine face.
Ouais, tu te forces là.
Alors que la maîtrise, un maître est en plein contrôle. Mais sans le contrôle qui, lui, est
étouffant. Sans le côté désagréable, tu veux dire.
Donc, un peu comme quelqu'un qui fait...
sans se forcer.
Quelqu'un qui ferait un régime, qui va se contrôler, c'est sûr qu'il va péter dans l'autre, l'autre côté. Mais quelqu'un qui maîtrise la situation, qui comprend qu'il faut juste, sans se limiter, qu'il faut juste bien faire les choses. Je pense qu'il y a l'aspect de la justesse. Alors, pour moi, c'est évident que quelqu'un qui perd, si on prend cet exemple de premier niveau, quelqu'un qui perd son porte-monnaie, là, une fois, c'est correct, mais comme je te dis, j'en connais qui étaient 2-3 fois par année, puis je pense que ça, c'est pas quelqu'un qui est en contrôle de sa vie. S'il perd ça, il perd d'autres choses, il est probablement pas attentif au niveau des amitiés, au niveau du travail. Moi, je mets cette même attention au niveau du travail. J'ai toujours des publicités sur Kijiji, mes sites web, je les repaufine toujours. Et ces temps-ci, j'ai presque trop de clients. Donc, j'ai fait un build-up. Ce que je veux dire, construire son bonheur, c'est-à-dire de mettre en place des choses dans ma vie qui vont faire que c'est plus facile de vivre. Parce que j'ai eu une époque où je n'avais presque pas d'argent. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu veux rebondir.
Non, je suis tout à fait d'accord. Et je l'utilise justement bien, bien souvent dans mes rendez-vous qu'il faut faire la différence entre le contrôle et la maîtrise. Je suis complètement d'accord. C'est juste qu'au niveau de l'expérience, des fois, perdre quelque chose, ça nous apprend tout simplement. C'est juste un indice. Maintenant, effectivement, si c'est répétitif, peut-être la question se place ailleurs.
Mais je ne sais pas si ça définit une personne. C'est de perdre quelque chose ou d'avoir...
Ça peut définir qu'elle a une perte d'attention quelque part, puis qu'à chaque fois, elle perd ses choses. Parce que souvent, je connais quelqu'un comme ça qui perd souvent ses choses, mais parce qu'il est comme dans tous les sens, puis il ne focus pas. Ça fait qu'il perd souvent ses choses. Donc, ça montre un trait de caractère de cette personne que oui, elle est comme dans tous les sens. C'est pour ça qu'elle a tendance à perdre ses choses.
Il y a des gens qui sont des paniers percés. C'est-à-dire que l'énergie arrive ou l'argent arrive, puis ouf, ça ressort tout de suite. T'sais. Moi, ayant été longtemps sur l'aide sociale, c'était plutôt le contraire. Dès qu'il rentrait une scène, je la gardais pour pouvoir la réinvestir sur mes projets. Donc, j'ai jamais vécu, moi, dans une situation où j'avais trop d'argent, tu sais, que ça me sortait par les oreilles au point où même si je perdais quelque chose. Donc, j'ai conservé le maximum que j'ai pu. Là, je travaille depuis 5 ans, donc je manque pas d'argent, mais en même temps, j'ai conservé cette habilité de conserver mon énergie. Je pense que si on revient au niveau le plus subtil, c'est de conserver son énergie. C'est de garder toujours l'énergie. Puis pour moi, l'énergie est liée au bonheur. Tu sais, quand on est malade, on est fatigué, c'est plus difficile d'être heureux. Tu sais. Si tu te lèves le matin, tu es joyeux, la journée part, il y a une facilité. Tu sais, dans ce temps-là, moi, ça coule, tout fonctionne bien.
Oui, je suis d'accord. C'est ce que je disais au début quand j'étais arrivée, l'entre-noir. Tu sais. Tout revient vers toi, de toute façon. Il faut que tu sois bien. Si tu n'es pas bien, ça ne sert à rien. Tu sais. C'est pour ça que tu élimines ce qui te donne un peu plus de stress, puis tu vas vers l'essentiel. Ouais.
Je suis assez d'accord avec Nicolas tout à l'heure que c'est pas effectivement tout le monde qui peut le faire aussi rapidement, de pouvoir tout de suite avoir un tableau clair de qu'est-ce qu'on veut, dans quel sens, comment, avec qui, où. Il y en a qui sont
C'est sûr
que
ça prend, ça peut être graduel. Il y en a qui vont apprendre plus vite que d'autres, etc. Là, c'est toujours pareil, chacun est différent, là. Tu vas avoir ton rythme, ton propre rythme. Mais déjà, il faut avoir la prise de conscience que tu es comme ça, que si tu en as marre d'être comme ça, il faut changer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour changer?
Le premier pas, effectivement, peut-être de savoir déjà qui on est et à quelle intensité on vibre. Et à partir de là, effectivement, je pense qu'on peut mieux construire le puzzle de sa vie tranquillement.
Et pour moi, c'est toujours abstrait de voir des gens qui ne savent pas qui ils sont. Parce que moi, à l'âge de 10 ans, là, j'ai découvert ma passion. La bande dessinée, c'était une passion dévorante. Puis j'ai toujours su que j'étais un artiste. Alors, je me suis jamais posé cette question. C'était toujours évident. Mais
toi, c'est ça. Toi, chacun est différent. Puis c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens autour, c'est pas du tout ça.
Non, les gens sont confus. La plupart du temps, ils savent pas. Ils sont perdus.
C'est quand même chanceux, là. l'avoir su tout de suite et tout ça, là, parce que c'est vrai que je connais une couple qui arrive, mais la plupart, non, ils savent pas, même encore maintenant, ils savent pas trop où ils cherchent, parce qu'ils ont pas une grosse passion qui peut leur permettre de focusser dessus, tu vois. Alors ça, ils aiment ça, mais pour un temps, genre 1 an, 2 ans, ils aiment, mais après, ah, bah, j'aime plus, tu sais, c'est passé. Tout nouveau, tout beau aussi, parfois, il y en a qui fonctionnent
comme
ça.
C'est la lassitude, les gens se lassent très vite des choses. Bah, c'est ça. C'est comme l'effet de prendre un chaton, c'est mignon. Après, quand ça grandit, c'est voilà.
Ouais, c'est plus
on
mignon
s'en amuse
quand c'est
deux mois et puis c'est comme un peu un nouveau-né, un jouet, c'est génial. Mmh. On est dessus pendant quelques heures, puis après, il est dans le coffret et on l'oublie.
Mais une vraie passion, ça brûle jamais. Ouais, moi, je suis encore aussi passionné de ce que je fais. Maintenant, je fais plus de bande dessinée nécessairement, mais je continue à écrire. J'y pense à tous les jours. Pour moi, je ne laisserai jamais mon travail complètement me dérouter. Puis non, je sais que ça peut vraiment, tu sais, ces temps-ci, j'ai beaucoup de demandes. Des fois, c'est des choses très, très intéressantes à faire, mais toujours, je finis à 6 heures le soir, je me garde du temps pour écrire mes livres, corriger. La fin de semaine, je me donne une journée complète. Pour moi, ça veut dire construire mon bonheur, c'est de me donner au moins une journée là, où je peux faire ce que j'aime le plus sans toujours faire plaisir aux autres, parce que c'est bien là, de faire plaisir aux autres, mais se faire plaisir en premier, moi, je pense que c'est ça qui est important.
Ouais. Tu peux le faire comme beaucoup peut-être d'entre nous aussi, parce qu'on est travailleurs autonomes. Donc, c'est vrai que la passion puisse te dire, on se donne une journée. Il y a des gens qui t'écoutent et qui peuvent dire, une seule journée. Moi, je travaille du lundi au vendredi, puis si j'ai mes week-ends, je suis bien. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, je me donne une journée, généralement, en gros, pour bien me reposer. Mais c'est parce que le reste du temps, je veux dire, ça ne m'essouffle pas non plus, c'est ma passion, c'est je ça. Fais ce que j'aime, donc ça devient facile, mon énergie est très vite régénérée. Donc, il y a peut-être aussi cette dimension, surtout de le bonheur à travers l'expérience, de savoir où est-ce qu'on veut s'asseoir, ne serait-ce que professionnellement, en partant du principe que c'est 70% de notre vie.
Ouais. Effectivement. Dans le fond, ce que je voulais amener comme point aujourd'hui, c'est que c'est une volonté. Pour ceux qui sont heureux après 45, après 40, 50, c'est pas des gens qui se laissent aller. C'est des gens qui ont mis dans leur vie toutes les conditions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toujours cette idée de la quête du bonheur, la recherche du bonheur. Tu sais, moi, je trouve que c'est nul parce que le bonheur, tu le cherches pas. Tu le décides, tu l'installes dans ta vie et tu le construis. Et puis ça se fait pas comme du jour au lendemain. Hein. Il y a des gens qui sont complètement déprimés puis ils pensent qu'en claquant des doigts, ça va changer. Non, ces gens-là ont mis dans leur vie un mauvais travail, par exemple, des gens qui diminuent leur énergie. Il faut vraiment prendre conscience. Puis...
Dépendamment de comment tu animes ta flamme, sur pareil, on a tous une flamme et il y en a qui en ont des plus élevés que d'autres. Et le tout, effectivement, pour te rejoindre, je suis d'accord que la nourrir en abondance, ça fait toute la différence.
Puis je pense aussi qu'il y a le phénomène justement du bonheur, de chercher le bonheur, ça met une dimension du temps, une projection dans le futur. Les gens veulent toujours, ça va être toujours mieux plus tard ou avec plus d'argent, une nouvelle blonde, etc. Il y a comme une dimension de temps, tu sais, alors que le bonheur, il est là maintenant. Avec, c'est sûr que t'as beau chercher, si tu cherches, à partir du moment où tu cherches, tu projettes. Donc en fait, à partir de là, tu te fais avoir, tu te fais avoir par le mental parce que t'es déjà projeté ailleurs.
T'es en attente, oui.
Donc, c'est pour ça que c'est bien important, justement, d'être en action, c'est-à-dire dans le maintenant. Comme ta passion, là, tu le fais, tu es passionné, tu fais tout, tu le fais. Donc là, tu es dans le maintenant, là. Donc là, tu es heureux. Mais c'est sûr, si tu cherches, ben là, ah, ok, je vais chercher. Ben, c'est toujours la dimension là, de temps, plus tard, tu reportes.
Oui, la réflexion, c'est bien, mais il faut qu'elle soit minime, contrairement, effectivement, à l'action.
La plupart du temps, les gens sont dans leur tête, ils vont chercher, ça sera plus tard. Ben oui, mais là, ça, c'est comme... tu serais déjà là, tu serais déjà dedans. Le temps que tu as passé là, à t'imaginer toutes sortes de trucs plus tard, bah moi, ça y est, j'y suis déjà là. Ça fait longtemps que j'y suis déjà là. Le temps que toute l'énergie part dans justement la projection. Puis tu n'y es même pas, tu perds ton temps finalement, entre guillemets.
Ouais, ça, c'est un symptôme du judéo-christianisme qui nous dit que le paradis est après. Moi, le paradis, il est ici maintenant. Là. Si tu n'es pas au paradis ici maintenant dans ta vie, tu ne l'auras pas après.
Tu ne le seras jamais.
À mon avis. Sinon, on t'attend. T'es pas différent. Je pense qu'on n'est pas différent après qu'on soit mort. On a la même vibration, on est la même personnalité. Ben, peut-être pas la personnalité, mais la même essence. Et puis, ça, c'est pour ça que quand je dis de construire, pour moi, ça fait appel à l'éternité. Parce que tu t'installes dans l'éternité, tu mets tout ce qu'il faut. Je me sens éternel. Et je pense comme un éternel. Je pense pas que je vais mourir. Bon, peut-être physiquement, je vais mourir vers 105 ans, mais. Je pense que je vais toujours vivre, par exemple, mon œuvre, mes livres, je les écris pour être un classique, c'est-à-dire que dans 500 ans, on puisse les lire, dans 1000 ans, on puisse les lire, puis ça soit pas totalement passé date. Eh bien, on va faire une pause musicale avec Ardami, une chanson qui s'appelle Antipolitique, et on revient après la pause avec ce thème, l'expérience volontaire du bonheur.
Ils ont tous un poli, ont tous le même type, celui de la démagogie et du mensonge politique. C'est son long mot, oui, dans un langage propre, mais avec la grâce des mots, et de pas de démocratie. Tous ces faux syndicats qui s'ajouent du violon, mais connaissent par cœur la symphonie de la corruption. Antipolitique, en somme, antipolitique, bonhomme, antipolitique, en somme, en somme, des sous-hommes. Antipolitique, en somme, antipolitique, bonhomme, antipolitique, en somme, en somme, des sous-hommes. Ils te regardent en caresse pour que tu deviennes leur pote, mais en toi, ce qui les intéresse, oui, c'est ton bulletin de vote. Ils iront voir un pot quand il passera dans une campagne, mais ce sera sur tes impôts et lui, ce sera le champagne. Mais pour lui, tu n'es rien, tu ne sais rien, tu ne fais rien. C'est pas lui qui se casse le dos au boulot tous les matins. Pour pas sombrer dans la précarité, pour lui nettoie son cachet le matin en bonne santé. Antipolitique, en somme, antipolitique, mon bonhomme, nom, nom, nom. Antipolitique, en somme, en somme, des sous-hommes. Antipolitique, en somme, antipolitique, mon bonhomme, nom, nom, nom. Antipolitique, en somme, en somme, des sous-hommes. Antipolitique. Antipolitique, bonhomme, antipolitique, en somme, en somme, des sous-hommes. Antipolitique, en somme, antipolitique, bonhomme, antipolitique, en somme, en somme, des sous-hommes.
En 2012, on est amené à aller voter pour des gens qui vivent pas dans le même monde, la même société. Ils ont attentivement improvisé comme toutes les années. Ce sont toujours les mêmes qui vont comme se faire piquer, qui vont comme se faire niquer, compliqué à ce jour de vivre dans ce pays où les gens sont horrifiés quand il s'agit de critiquer. Ils ont oublié que l'on avait dit.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est l'expérience volontaire du bonheur. Moi, justement, vers l'âge de 28 ans, j'ai commencé beaucoup à m'interroger sur c'est quoi une pratique. Une pratique, c'est une pratique spirituelle, mais je me suis rendu compte que ce qui était le plus intéressant pour moi, c'est une pratique intégrale. Je l'ai découvert en lisant l'œuvre de Ken Wilber. Et je me suis rendu compte que si je voulais être bien, parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup d'expériences mystiques. Je poussais très fort au niveau spirituel. Je prenais des drogues psychédéliques. Je faisais de la méditation. Donc, je suis venu à un point où j'étais déséquilibré au niveau de la réalité physique. Alors, j'ai compris que ma pratique intégrale devrait tenir compte du corps, du mental, du cœur, de l'esprit, de l'âme, de tous les niveaux, pas simplement de l'esprit. Et pour moi, une pratique intégrale me semble absolument nécessaire pour être bien dans sa peau jusqu'à l'âge de 90, 100 ans. Parce que je connais des gens, ma grand-mère par exemple, elle a 99 ans, elle est encore, elle vient juste d'arriver dans un endroit pour les gens âgés, mais jusqu'à l'âge de 97 ans, elle était en appartement, elle préparait ses choses elle-même, donc il y avait comme une volonté, cette femme-là est comme une lumière incroyable. Et j'ai rencontré peu de gens comme ça à cet âge-là, parce que beaucoup de gens vont s'éteindre, vont devenir laids en vieillissant, alors que ceux qui sont vraiment beaux restent beaux, même s'ils ont des rides, même s'ils sont un peu croche, ils restent beaux. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, l'aspect du bonheur doit transparaître dans la physiquement. Hein,
mais qu'est-ce que tu veux dire par pratique intégrale?
Mais par exemple, il y a des gens qui vont avoir juste une pratique spirituelle, vont juste faire de la méditation. Ils vont devenir un peu comme des ballons. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Là, des gens qui faisaient beaucoup de drogues psychédéliques, qui sont comme des ballons gonflés, mais qui tiennent presque pas sur la terre. T'sais, ils sont trop spirituels.
Tu veux dire que ça manque
d'enracinement. Oui. Okay. Ces gens-là, quelques années après, j'en ai rencontré une. Elle s'était fait rentrer dedans par un auto. Elle s'était fait casser les deux jambes. T'sais, c'est un exemple de quelqu'un qui n'était pas bien groundé. Donc, moi, ce que je dis, la pratique intégrale, c'est de prendre en compte, oui, l'aspect spirituel, mais l'aspect du corps. Par exemple, par le corps, ben, j'entends faire de l'exercice physique, faire l'amour, faire du stretching, t'occuper de ton corps, mais du corps de la société aussi, par exemple, le fait d'être bénévole dans un organisme, ça, c'est au niveau de la communauté. C'est de penser à tous les aspects de ta vie. Parce qu'il y a une image, moi, qui me revient toujours, c'est une image dans Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Il marchait sur une route, il voit un homme qui avait une oreille tellement grosse qu'il ne pouvait plus marcher, ce qui représentait le don. Cette personne-là avait un don, par exemple, d'entendre très, très, très bien, mais son don était tellement puissant qu'il n'était plus capable de marcher. Il y a des gens des scientifiques, par exemple, qui vont passer tout le temps dans leur laboratoire, mais ils n'auront pas de vie amoureuse, par exemple. Ils n'auront pas de loisirs. Ces gens-là ne sont pas balancés. Et je ne peux pas croire que ces gens-là vont être heureux quand ils vont être vieux.
Oui, focus sur un seul aspect de leur vie. Là.
Tu sais, il y a des moments où ça va mal, ben c'est là que tes amis ou ton mari ou les gens que t'aimes sont importants, ou c'est là qu'avoir une bonne santé physique devient important. Pour moi, c'est d'équilibrer. Par la pratique intégrale, je veux dire d'équilibrer, pas être juste ou juste physique, par exemple. Il y en a qui vont être juste physique, mais ils n'ont aucune spiritualité.
On peut revenir sur ton régime, effectivement, c'est comme dire, au lieu de te restreindre, tu peux tout manger, mais vas-y par dose quantité, respectable dans tout, finalement.
Éviter les excès dans certains domaines. Même si j'aime, par exemple, beaucoup travailler sur les sites web, je me prends des journées de congé, j'arrête à un certain point parce que je ferais tout le temps ça. J'adore tellement ça que je pourrais devenir antisocial puis sauvage. Je sais parce que je deviens comme violemment, c'est une genre de violence créatrice puis je suis plus capable de parler aux gens, je suis trop concentré. Et ça m'est déjà arrivé dans ma vie où j'avais des périodes où je voulais lire tout le temps. Ma compagne était jalouse de mes livres. J'arrivais pas à décrocher.
C'est quand on est aspiré dans une dimension plus qu'une autre. C'est vrai que ça peut contrebalancer. Mais je pense qu'on a tous des phases comme ça où des fois, on a besoin d'un recueillement personnel. Et puis, on est comme en excès, si tu veux appeler ça comme ça. Ou effectivement, mais ça va être... toi, ça va être les bouquins. D'autres, ça va être l'ordinateur. Et puis d'autres, ça va être une retraite quelque part. On coupe le téléphone, on coupe tout. Donc, je pense que l'excès comme ça, la soif des fois de vouloir se sentir aspiré juste dans une bulle, peut-être aussi agréable, bénéfique.
Et par exemple, le workaholic qui travaille toujours, qui même la fin de semaine fait des heures supplémentaires, qui oublie sa famille, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est en train de construire son bonheur. Il n'a rien compris, sa femme va le laisser, il va finir tout seul, il va tout perdre. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne, mais combien de cas on voit comme ça, de gens qui... Ou tout simplement qui font une crise cardiaque?
Ouais, c'est sûr, mais là, je trouve qu'il y a différents aspects, là, psychologiques, etc. Parce que justement, quelqu'un qui travaille trop et tout, il y a des raisons psychologiques derrière ça. Donc, il faut voir aussi le cas, là, cas par cas. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les esprits créateurs, vraiment, où là, il y a des effluves d'énergie au niveau de l'âme qui va vraiment comme... amener la personne à être comme obsessionnelle par rapport à peindre, par exemple, comme des grands génies là, de peinture, c'est ça, c'est parce que justement, au niveau de l'évolution, là, il a eu comme une vague vraiment au niveau énergétique, au niveau de l'âme, qui a vraiment pénétré au niveau du mental et qu'il n'a pas été capable de dealer vraiment avec cette énergie-là. Et là, il va propulser cette énergie-là sur sa toile. Et là, ça en fait des génies, parce que là, toute l'énergie est là. Et ils focus uniquement sur leur don de peinture. Et c'est ça que ça fait après. Souvent, ça va faire des maniaco-dépressifs, justement. Ça fait ça. Des grandes périodes de vraiment de grande créativité, très, très forte. Et d'un seul coup, boum, ça va tomber. Parce que justement, la poussée au niveau de l'énergie de l'âme était là pour créer. D'un seul coup, boum, ils vont tomber vraiment très bas, puis là, ils se mettent à pleurer, etc. C'est pour ça que la plupart des grands initiés, là, des peintres et tout ça, étaient maniaco-dépressifs. Ça,
c'est vrai, c'est un trait très caractéristique des grands artistes, mm-hmm. où souvent, il y avait des addictions ou des déséquilibres.
Ouais, c'est ça qui se passe Picasso, au niveau de l'énergie. Par exemple,
ouais. Super génie en peinture, mais super nul en relations humaines. Il est fini seul dans son grand château.
C'est ça.
Il n'était pas capable d'endurer les gens autour de lui.
C'est vraiment une mauvaise compréhension de l'énergie, de qui on est réellement en tant que Dieu, à travers le monde physique. Donc, en fait, ça prend un chemin qui va pousser la personne à être obsessionnelle sur une chose qu'il aime, là, déjà. Et puis, c'est comme... Ils ne peuvent pas, là. C'est comme trop puissant, là, parce que l'énergie divine, c'est tellement puissant que là, ça, c'est comme... Puis après, là, boum, c'est retombé à zéro. Là,
c'est des gens instables. C'est des gens... Personnellement, moi, non, ça ne m'attire pas, là. Mm-hmm. Des gens comme ça, non. Je préfère quelqu'un qui gradue et qui monte graduellement, que tu as une poussée d'énergie, puis l'on le met à un couteau entre les mains, là, j'ai pas besoin de ça.
Non, c'est pas du tout un couteau entre les mains, c'est pas ça du tout, c'est juste l'énergie créatrice, vraiment, qui va te pousser à faire ton œuvre. Après, c'est pas question de couteau, rien du tout, c'est pas psychopathe. Après,
non, je pense
ça n'a rien à voir. C'est vraiment au niveau de l'évolution, comme par exemple, moi je connais beaucoup les degrés d'évolution par rapport à l'âme, là. Comme tous les grands peintres étaient au moins troisième degré d'évolution, donc c'est sûr, ces gens-là, là, tu leur arrives pas à la cheville, là, quand ils veulent peindre. D'un seul coup, ils ont la poussée, ils savent pas quoi en faire, c'est tellement puissant, mais ils la mettent dans leur don, donc ils vont projeter un tableau, une œuvre, puis après ils vont tomber dans un cycle de dépression, parce que ça fait partie de ça, ça fait partie de leur évolution à 3 degrés, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est sûr que la plupart des gens, ils vont avoir 1 degré, donc ça va fluctuer, ou alors ça va être juste des maniaco-dépressifs, mais des comme vrais au niveau psychologie. Mais je te parle pas de ceux-là, là. Je te parle vraiment des grands peintres, des grands initiés, là, qui ont ce phénomène-là. C'est juste une compréhension par rapport au flux vraiment d'énergie que tu peux avoir pour évoluer.
J'ai déjà eu des poussées d'énergie, mais sans jamais perdre focus. Non, moi, j'ai toujours une conscience de qui est là.
Ouais, mais je te parle des gens qui ont fait des œuvres. Hein, comme
par exemple, Salvador Dali, tu as quelqu'un qui était mieux balancé que Picasso. Salvador Dali, il était en amour, il y avait une femme dans sa vie, il y en avait plusieurs aussi, mais il se forçait à aller marcher sur la plage avec Gala, qui était sa femme, puis tout ce qu'il pensait, c'est de retourner à sa toile.
Ah non, ouais, c'est ça, le galvanise
mais
complètement.
Mais il faisait parce que là, après ça, il se pitchait sur sa toile, puis là, il se laissait aller.
Ouais,
mais ça lui donnait au moins une balance.
Il se retenait, mais à un moment donné, il faut que ça explose, là, mais parce que ça te retient. Là, c'est une sorte de contrôle qu'il faisait, donc c'est sûr qu'il essayait. Mais tu sais, il n'arrivait pas à dissoudre cette énergie, c'est trop puissant, ça fait qu'il se bloquait, là, puis qu'après, il pitche ça sur la toile, mais ça fait aussi, ça propulse encore plus l'énergie qu'il avait déjà à la base.
C'est pour ça qu'il faisait, lui.
Il
était assez intelligent pour justement utiliser cette énergie de Paul.
Parce qu'il n'arrivait pas à dealer avec au moment où il faisait des choses qu'il ne voulait pas comme faire, là. Mais après, il se décharge sur la toile. Là, t'sais. Mais c'est ça, des grands initiés du troisième degré, comme Beethoven, bon, bah, c'était sa musique et le sexe. Là, t'sais. Donc, il propulsait ça dans les deux chemins comme ça. Là, t'sais. Mais chacun, c'est selon vraiment le degré que tu as atteint et puis tes tendances. Là, t'sais. C'est pas tous les 3.3 comme Beethoven. Toi, 3.3, il était, lui. C'est pas tous à 3.3 qui vont se mettre ça dans le sexe et dans la musique. Là. Mais c'est vrai que la plupart des grands musiciens, grands pianistes ou peintres, ils étaient à 3e degré et plus. Là. Puis là, c'était des gens qui avaient une tendance maniaco-dépressive à cause de ça, des effluves d'énergie au niveau de l'âme qui étaient trop puissants puis qu'il fallait qu'ils projettent.
C'était leur choix, je pense, d'expérience à travers le bonheur. C'était pour eux, leur essentiel et... Et tant mieux,
c'est de savoir si ces gens étaient heureux.
Ça a continué, on en parle encore au jour d'aujourd'hui, donc ils ont vraiment mis leur marque à travers ça.
Sûrement qu'ils étaient heureux au moment que ça a comme jailli.
Qu'ils produisaient,
oui. Bah oui, exactement. Parce qu'ils sont dans la créativité, c'est comme logique, ils sont dans le moment. Quand tu peins, tu peux pas être autrement que dans le moment, ou quand tu décides, toi, t'es là.
Bon, après,
donc c'est au niveau, c'est pour ça qu'il y a autant d'énergie aussi.
Je pense que Mozart avait une vie misérable, mais ça l'a jamais transparu dans ses œuvres. Mais tu vois, moi, c'est pas ça que je voudrais, oui, avoir le don, le conserver, mais en même temps, dans ma vie humaine, être heureux, avoir un support, avoir mis des choses autour de moi. Et ça, c'est ça l'équilibre que moi, j'ai trouvé dans ma pratique intégrale, parce que j'ai pris tous les niveaux. Moi, je suis extrêmement méthodique. Donc, j'ai dit, on va travailler tous les niveaux séparément et balancer.
Est-ce que tous les niveaux, ça voudrait dire, tiens, Marie, tu vas mieux répondre à cette question, est-ce que ça voudrait dire, donc, apprendre à s'incarner?
Comment ça, tous les niveaux? Tu lis
bah, comme la Kédi, autant dans ma passion, autant dans ma vie de tous les jours, terre à terre, autant dans mon esprit, autant dans ma bulle. Est-ce que ce serait, c'est ça qu'on appellerait, on s'incarne?
Ah non, c'est pas ça qu'on appelle on s'incarne, non.
Alors comment toi, tu verrais ça?
L'incarnation?
Non, non, comment tu verrais, quel nom tu mettrais sur le fait qu'on remplisse tous les niveaux?
Oh ben c'est simplement une volonté de vouloir justement l'harmonie à tous les niveaux et non pas focusser son énergie sur un chemin, tu sais, parce que lui, il veut être comme vraiment dans tous les domaines, là, il veut vraiment avoir une certaine harmonie. Tu vois, c'est juste, Nicolas, il a une volonté de s'harmoniser à tous les niveaux. Ça n'a rien à voir avec l'incarnation.
D'accord.
Et on fait une pause musicale avec une chanson qui s'appelle Rap anti-sioniste. Et on revient avec ce thème, l'expérience volontaire du bonheur.
Dirigé par des fous, des pédophiles, brigands et violeurs. Où sont les valeurs morales garantes de nos républiques? La justice se fait rare comme un ministre qui serait pudique. Bienvenue dans le réel, la terre est colonisée. L'IPAC dirige le monde pendant que le CRIF contrôle l'Elysée. La France victime de censure, symbole de l'ordre établi. Pays des droits de l'homme, devenu pays du Talmud Babli. J'observe ce système pourri de Wall Street au Qatari. Des frères en Palestine, au SDF qui meurt à Paris. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où sont les aides de conscience? Pas besoin d'être paranoïaque, faut juste un peu de bon sens. Leur mission est sataniste, leur but c'est de nous diviser, détourner nos regards de leur projet pour le finaliser. Y'a même Al-Qaïda qu'ils ont créé pour terroriser, car tant que le peuple a peur, il a peu de chances de réaliser. À vos vols, voleurs, à vos guerres, on dit non, non. Vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non. Au génocide d'Israël, on dit non, non. C'est quoi, tu comprends pas le terrorisme, on dit non. À vos vols, voleurs, à vos guerres, on dit non, non. Vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non. À la violence Israël, on dit non, non. C'est quoi, tu comprends pas? Tout le peuple dit non, non.
We need more troops, more helicopters, more satellites, more Predator drones.
El diablo está en casa, pues.
President Obama said Iran will pay a price.
Váyanse al carajo, yanquis de mierda!
L'IPAC s'efforce avec succès d'éprouver la loyauté du Congrès à sa cause pour soutenir une action du gouvernement israélien ou pour condamner l'Iran et les autres pays de la région.
La haine planétaire d'Israël est le nouveau visage de l'antisémitisme.
Mort aux Arabes, scandent encore les partisans d'Avigdor Lieberman.
L'anéantissement total des Arabes, voilà la solution. Pardon ?
Ceux qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme doivent dire fièrement, nous sommes tous des sionistes.
Et c'est reparti à ce clown téléguidé qu'on appelle Obama, qui s'est trouvé un remplaçant pour l'agent spécial Osama. On s'est habitué, oh là là, y'a l'axe du bien qui a envie de tuer, alors ça va. Y'a trop de pétrole et d'Arabes là-bas, donc les médias en Europe, en tout cas, ça les dérangera pas. De façon, y'a Jacques Addy qui a dit qu'il faudra au moins ça pour relancer l'économie. Et ça passera vu l'ampleur de la lobotomie. C'est un Hiroshima et deux Nagasaki et trois j'atomise l'Iran comme promis. Et peu importe si les enfants iraniens y laissent la vie baraque sans table comme du phosphore blanc qu'on balance au Gaza. Oui, et si c'est en tant qu'être humain que tu réagis, les BHL et compagnie traiteront de nazis. Espère pas porter plainte si t'es tabassé par la LDJ. Ils s'entraînent sous le ministère de l'Intérieur, donc réfléchis. Milice armée communautaire et répressive, question précise, est-ce qu'on est en démocratie? A priori, je crois pas, vu qu'une attitude responsable, il paraît que c'est laisser crever nos semblables. Faire confiance à l'Empire, à sa rhétorique invraisemblable, à ses braqueurs de pétrole, à ses menteurs lamentables. Sans blague, ces monstres cherchent le conflit frontal. Ils sacrifieront nos enfants pour leur chère guerre mondiale. Et nous faut qu'on trouve ça normal, et faut même pas qu'on cherche.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est l'expérience volontaire du bonheur. Moi, j'ai remarqué que chez les femmes, il y a plus de conscience justement qu'il faut construire son bonheur. C'est peut-être dû au fait que la femme va avoir des enfants, donc elle a besoin comme d'un nid, d'un endroit pour faire grandir les enfants, alors que pour nous, les hommes, c'est très abstrait. Et donc, pour les hommes, ça va aller beaucoup plus tard avant qu'ils commencent à comprendre que le bonheur, ça se construit, que ça... Il faut mettre des choses dans ta vie qui sont concrètes, qui sont solides.
Oui, là encore, je dirais que ce n'est pas vraiment une question d'âge, que ce soit un homme ou une femme. Les hommes peuvent allumer, comme on dit, tôt ou tard. Donc, je miniserai pas l'homme là-dessus. Mais c'est vrai que la femme, par le fait qu'elle porte l'enfant, j'aime bien l'image du nid. Donc... Je te donne ce point.
Cette sécurité, pour moi, par exemple, est très importante pour être capable de créer. En paix, je dois me sentir en sécurité.
Ça, c'est normal. Je pense que tout le monde fait ça. Tu veux te sécuriser, c'est tout à fait normal. C'est même que si tu dois le faire.
Oui, mais la sécurité, à quel niveau, je veux dire, c'est... tu peux te sentir sécure dans tout? Je veux dire, il faut se faire confiance?
Ben, moi, par exemple, tu sais, j'avais pas une grande sécurité jusqu'à l'âge de 32. C'était pas si important. J'avais l'aide sociale. J'avais un petit 600$ qui arrivait chaque mois. C'était pas beaucoup, là. Mais je vivais sur la faille. J'étais chanceux. Je suis intelligent. Donc, justement, j'ai jamais rien perdu. Je me suis jamais fait d'accident. Parce que je voulais vivre sur cette faille, mais de manière volontairement consciente. Alors que d'autres vont vivre sur la faille, mais ils se plantent. Je veux dire, Janis Joplin, oui, c'est super bon ce qu'elle a fait, mais elle est quand même morte. À cette époque-là, il y en a plusieurs qui se sont fait blower la tête avec les drogues. Oui, c'est des génies, Jimi Hendrix, mais il aurait pu, s'il avait vécu plus longtemps, imagine ce qu'il aurait pu faire.
Mais sûrement qu'ils n'étaient pas dû pour vivre longtemps comme ça. Moi, je vois ça de même.
C'était des expériences extrêmes. C'était des artistes extrêmes. C'était la période.
Parce que je regarde l'histoire de Michael Jackson, puis il me semble qu'il aurait dû être mort depuis longtemps, lui. Parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, c'était l'horreur. Là, il aurait dû mourir avant. T'sais. C'était vraiment les accusations de ça. Puis vraiment, en fait, je pense qu'à quelque part, quand on parle de ces artistes qui sont morts à 27 ans, ils sont morts pour une raison à cet âge-là. T'sais. Je pense qu'après, ça aurait été plus pénible.
De toute façon, il y a toujours des raisons. Quand tu
ouais.
meurs,
mais... Oui, peut-être qu'il n'y aurait eu plus rien derrière.
C'est ça.
C'est effectivement, la magie a opéré sur un court terme.
Mais là, je reviens à ce que tu disais, parce que là, je crois qu'on s'écarte un peu de la sécurité dont on parlait. Là. Parce que, enfin, pour moi, je trouve que la sécurité, c'est vraiment relatif, là, parce que c'est vraiment illusoire aussi, parce que c'est toujours projeté par rapport au domaine physique, là, au monde physique, d'être en sécurité par rapport à ceci, par rapport à l'argent, là. Mais justement, comme tu disais, c'est pas juste ça, c'est juste au niveau d'avoir confiance en soi. Mm-hmm. À partir du moment où tu as confiance en toi, t'es dans la
sécurité. Tu sens pas le danger.
Ben, moi, j'ai déjà vécu sans abri à San Francisco, j'étais totalement dans la sécurité. Pourtant, j'étais dans la rue et puis il ne m'est jamais rien arrivé. Je me sentais totalement sécure. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est juste un phénomène, un état intérieur. Là, d'être sécure. C'est vraiment une illusion de croire que tu es en sécurité par rapport à quelque chose extérieur.
Ce sont des peurs, ouais, je pense. Ça. Et puis les peurs, on tisse la toile des problématiques. Effectivement, là, on a beaucoup plus de chances que le danger arrive.
Comme on parlait de l'autre fois, d'être la stabilité dans l'insécurité, etc. Là. C'est ça, là, t'sais. C'est comme te sentir sécure par rapport à quelque chose parce que tu as quand même un certain montant d'argent ou le BS ou quoi que ce soit. Bah oui, mais là, c'est illusoire. Parce que c'est sûr, je t'enlève le BS, bah là, on va voir ce que tu vas faire là, avec ta sécurité. Ouais.
Non, mais ça, c'est... Moi, ouais, je suis d'accord. Mais le BS, c'est une argent dépendante de quelqu'un. Tu veux dire, moi, je me lève le matin pour aller travailler. Fait que mon argent, elle me sécurise parce que j'ai travaillé pour. Pour moi, c'est
ta récompense.
C'est un autre aspect. C'est sûr que c'est un autre aspect. C'est ta récompense. Ça, c'est autre chose, légèrement autre chose. Là, on parle de, tout simplement d'une sécurité parce que justement, ça paye ton loyer. Donc, tu n'as pas à stresser pour aller travailler. Là, tu peux au moins avoir ton œuvre, tu vois, d'écrire parce que tu sais très bien que tu es baqué là, avec l'argent du BS. Là. C'est sûr. Mais ça, c'est une fausse sécurité. Là, parce qu'on parle de la vraie sécurité, là. Bah parce que l'autre sécurité est illusoire, là. C'est comme la bullshit, là. Parce que, tu sais, ça, n'importe quoi peut tomber dessus, là. Tu seras jamais sécure, là. C'est pour ça que ça fait autant de fric avec les assurances et tout ça. Ils te vendent bien le truc, là. Parce que l'être humain est vraiment branché là-dessus à cause de toutes ses peurs. Je vais être en sécurité, Mais c'est une illusion, t'es en pleine illusion. Tu seras jamais en sécurité. Et ça se peut pas.
La sécurité monétaire, c'est moderne, en plus, si on peut dire. Parce que si on remonte dans les temps passés, on avait le troc humain. Je veux dire, la monnaie n'existait pas. Donc, il n'y avait pas cette. C'est encore ce point auquel les êtres humains sont obligé de se greffer autour pas donc quand ça tombe pas dans quelque chose de naturel et que ça a été mis en place au fur et à mesure du temps comme avant c'était les campagnes, maintenant c'est les buildings, etc., etc. Donc
mais là on en fait toute une montagne tout le temps de cette sécurité parce que c'est tout le temps le domaine de l'ego, tu sais, il veut ci, il veut ça, il veut se sentir bien, il veut se sentir comme ci, il veut se sentir comme ça, en sécurité avec toutes sortes de choses
dans
autour.
Dans contrôle, on parlait tout à
mais
l'heure,
tu sais, c'est quoi qui va arriver, je t'enlève tout et alors tu sais, je t'enlève tout, bah t'es quand même là, t'es là. Hello!
Je pense que c'est tellement un aspect que tout le monde peut le voir de manière différente. Moi, je vois ma sécurité, je la bâtis. C'est là que je vois ça. Je me sécurise, j'ai confiance en moi parce que je suis. Faut vous dire que je suis quelqu'un qui est don't give a damn. C'est ça aussi, là.
C'est bon. Fait
que, mais tu sais, je la construis, mais en même temps, je me méfie aussi. Je me dis non, moi, je suis quelqu'un qui. J'aime. Avoir les petits, il va dire, faut pas que je me lève puis que j'ai Non, j'ai un hic. Non, il faut que soit, tout soit bien posé en place parce que je l'ai faite pour. Mm-hmm. C'est pour ça que je travaille très dur pour que, arrivé plus tard, je vais travailler moins. Pendant que tout le monde va se casser le brain, moi, je vais être bien. Je vais être correct.
T'sais. Ouais, c'est ça, c'est une projection du futur. Mais là, tu es branché comme ça parce que tu es comme ça.
Ouais,
là,
c'est un choix.
Mais si ça se trouve, tu vas mourir demain, tu n'en sais rien. Donc, tu auras construit tout ça pour plus tard. Mais il n'y a pas de plus tard. C'est juste ça. Tu n'es pas dans la sécurité du tout parce que tu ne sais pas ce qui va arriver en sortant dans la rue.
Aussi.
Je vais rentrer chez moi. Mais comme je disais souvent ça à ma mère, maintenant, dis attention dans la rue, tu sais, regarde, l'univers m'aime, moi. OK? L'univers m'aime. J'ai fait 3 ans avec un gars violent, puis je suis encore là. Fait que non, l'univers m'aime. Fait que je dis, c'est pas vrai que...
Tu vois, là, par exemple, il y a un super bon égo, hein, parce que l'égo a deux faces, hein, une bonne et une mauvaise. Pascal, elle nourrit le bon côté. C'est-à-dire que ça devient son moteur. Tu vois, j'ai de l'égo au 30, dis... mais c'est mon moteur.
Mon univers m'aime, mais il m'a mis quand même un homme qui était violent.
C'est okay, ça. T'sais. Non, mais tu sais, j'aurais pu mourir pour de vrai. Non, je suis encore là.
Bref, il y a toujours pire. Je pense que ce que Marie veut dire, c'est qu'on ne peut pas mettre notre sécurité sur les autres ou sur des choses extérieures.
Exact.
Tu peux le faire, mais ça demeure toujours relatif. Je pense qu'il faut le faire aussi dans le monde relatif. Je veux dire, je peux avoir un petit coussin pour être capable de payer son loyer, d'avoir des gens qui nous aiment. Mais ici, on ne l'a pas trouvé à l'intérieur. Et puis, c'est là que la volonté est très importante parce que si tu n'as aucune volonté, moi je trouve que beaucoup trop de gens ont plutôt de la non-volonté. La non-volonté, c'est le contraire de la volonté. C'est quelqu'un qui essaye de se lever dans les airs en tirant sur ses lacets. T'sais, il va forcer, mais ça ne lèvera pas. Je vois tellement de gens qui forcent autour de moi alors que moi je trouve que c'est dans la facilité qu'on fait les choses les plus simples et les plus faciles et qui nous apportent le plus. J'ai rencontré ma compagne il y a 2 ans et demi. J'ai fait un rêve avec elle. Je l'ai rencontrée en rêve avant de la rencontrer. Je savais qu'elle était importante. J'ai porté attention quand je l'ai rencontrée. Et puis, tu vois, je suis encore avec elle et ça fonctionne très bien. Et au contraire, j'ai des gens que j'ai pas rencontrés avant puis tu vois qu'il n'y a aucune connexion. Je fais attention parce que pour moi, je cherche le long terme. Même si je veux, par exemple, 3 compagnes, 3 femmes dans ma vie, je les veux à long terme. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui voit à court terme comme un vampire, par exemple, qui va sucer l'énergie de la personne, qui va l'acheter. Parce que pour moi, c'est le gage du désastre. Tu te ramasses toujours toute seule, toujours est à recommencer. Alors que ce que je veux, moi, c'est construire ma famille. Pour moi, le concept de la famille est extrêmement différent de la majorité, puisque je n'aurai pas d'enfants. Donc, pour moi, une famille, ça représente plutôt comme une tribu. Donc, c'est de mettre en place les bonnes personnes. Donc, c'est de poser les bonnes questions, savoir bien définir qui je suis.
C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est tirer sur les lacets, c'est justement à partir du moment où on n'a pas cet équilibre ou cette juste mesure, où justement on tire sur la corde, on brûle la chandelle par les deux bouts, comme on dit.
Ça mène nulle part. Si tu parles, tu viens de dire à l'instant, il y a une minute, là, tu te retrouves toujours tout seul, c'est ça que tu viens de dire.
Mais... Non, si tu fais le contraire de moi, par exemple. Ce que je veux dire, si.
Oui, mais c'est quoi le problème d'être toujours tout seul? Parce que ça, c'est encore de l'insécurité. Il faut être comme pas tout seul quand tu vas vieillir. Là, c'est l'insécurité aussi.
Moi, je fais une différence entre la solitude et l'isolement. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, puis c'est important. J'ai des moments. Mais j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais isolé. Et ça, pour moi, ce n'est pas de l'intelligence, parce que ça amène à être toute seule. Si tu as des problèmes, il n'y a personne qui peut t'aider, te donner une main d'appui quand c'est nécessaire. Donc, il faut, à mon avis, faire attention. Oui, la solitude, c'est bon, mais pas au point d'être complètement isolé. Parce que quand tu es isolé, tu es en danger. Mais dans la société.
De toute façon, je pense que l'être humain, intrinsèquement, n'est pas fait pour être seul. On vient tous d'une grande tribu, entre guillemets, si on cherche au fin fond des temps. Okay. Donc aujourd'hui, l'individualisme qui s'installe, je pense, crée des maux beaucoup plus grands.
Oui, oui, c'est normal. On vient du concept de la tribu. Pour moi, la communauté est extrêmement importante. Donc oui, dans la communauté, je me réserve des moments pour être seul, parce que c'est important pour écrire. Mais en même temps, parfois, je vais faire comme... plus attention, je veux dire, OK, je vais sortir une journée avec ma compagne, je vais lui donner tout mon temps parce que c'est important pour elle. Des fois, c'est un peu moins important pour moi parce que je suis tellement dans ma bulle pour créer, mais je me dis, OK, c'est là que la pratique intégrale pour moi m'aide à garder ma vie en équilibre parce que ça me prend une grosse volonté, par exemple, pour aller au gym. Parce que moi j'irai pas, mais je sais qu'il faut que je le fasse si je veux être en forme. Donc, pour moi, c'est comme une corvée, je le fais, parce que c'est nécessaire. Sinon, je passerais mon temps chez nous, hein, devant mon ordi, à faire des choses.
Mais il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure que je trouvais intéressant, Nicolas, par rapport à... Mon Dieu, je ne vais pas perdre mon idée avant qu'on finisse.
Dérangez-le pas.
Par rapport à tout ce qui vient facilement. C'est vrai que quand tu ne te poses pas de questions, les choses viennent vers toi, sans même que tu aies fait aucune demande, rien. Ça arrive tout seul, puis c'est souvent c'est ce qu'ils disent le plus longtemps, quand ça vient facilement.
La facilité est preuve d'harmonie. Bien, merci à tous d'avoir été à l'écoute cette semaine. On va vous laisser avec une chanson de Eva Berberian qui s'appelle « Le changement, c'est maintenant ». Puis, je voudrais remercier Radio H2O, Radio Centre-Ville et le mouvement Javieliste de nous appuyer. Puis, on vous souhaite bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Venez écouter l'émission sur propossurlebonheur.com.
Avec leur savoir à tout va, mais qui sont-ils tous ces gens-là qui emprisonnent nos regards à nous faire boire de leur savoir? On tourne en rond, un peu bouffon, de ceux qui prennent les décisions. Ils nous chantent tous de belles chansons, toujours à tort ou à raison. Où est le vrai, où est le faux? Ils ne savent jouer que du pipeau. Mais où est-il le vrai changement? Mais où est-il très honnêtement? Nous on attend tous patiemment, patiemment, patiemment. On peut plus d'être des machines, pas besoin de toutes ces usines. Vous appelez ça l'évolution, moi j'appelle ça la régression. On n'en veut plus des financiers, ils sont trop lourds à digérer. Bande de pixous, 3 francs, 6 sous, maintenant à vous de vous mettre à genoux. Ils nous chantent tous de belles chansons, toujours à tort ou à raison. Où est le vrai, où est le faux? Ils ne savent jouer que du pipeau. Mais où est-il le vrai changement? Mais où est-il très concrètement? Nous on attend tous patiemment, patiemment, patiemment. Manipulent de leurs ficelles pour nous brûler ainsi les ailes avec leur science et religion. Mais tout ceci n'est que fiction. Ils s'ennuient tant qu'ils font la guerre. Tout ça pourquoi? Pour de la terre. Le monde est grand, on a peu de temps, alors le changement c'est maintenant. Ils nous chantent tous de belles chansons, toujours à tort ou à raison. Où est le vrai, où est le faux? Ils ne savent jouer que du pipeau. Mais où est-il le vrai changement? Mais où est-il très honnêtement? Nous on n'attendra pas longtemps. Ils vont nous faire perdre patience. Aujourd'hui on a pris conscience. Allez, allez, résolution. Faut pas trop nous prendre pour les moutons. Ils vont nous faire perdre patience. Aujourd'hui on a pris confiance. Allez, allez, révolution. On est nombreux à leur action.